À la conclusion de nos remarques, le chœur chantera « Mon amour ne s'éloignera pas de toi ». Il sera dirigé par Ryan Heggett et accompagné par Helen Amatangelo.
The benediction
Ensuite,
will be offered
Spencer Flanagan fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. Jeffrey R. Holland a été ordonné membre du Collège des Douze Apôtres le 23 juin 1994. Au moment de son appel, il servait comme membre du premier collège des 70, auquel il avait été appelé le 1er avril 1989. De 1980 jusqu'à son appel comme autorité générale en 1989, Frère Holland a été le 9e président de l'université Brigham Young à Provo. Il a été commissionnaire de l'Église à l'éducation et doyen de la faculté d'enseignement religieux de l'université Brigham Young. Il a été représentant des élèves et athlète universitaire au lycée et à l'université Dixie à Saint-Georges en Utah. Puis il a obtenu une licence et une maîtrise d'anglais et d'enseignement religieux de l'université Brigham Young. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en études américaines de l'université Yale. Frère Holland travaillait dans l'enseignement avant son appel à plein temps au service de l'Église. Il a été notamment président de l'Association américaine des présidents d'universités indépendantes et il a travaillé au conseil d'administration d'autres organisations professionnelles. Ses efforts pour améliorer la compréhension entre les chrétiens et les juifs, il a été récompensé par la Torche de la Liberté, distinction discernée par la Anti-Defamation League de N.Y. Brath, et il fait partie du bureau général de plusieurs associations civiques et professionnelles. Il a reçu la récompense d'Aigle Scout d'excellence des Boy Scouts d'Amérique, et il est l'auteur de 7 livres, dont l'un écrit avec sa femme Patricia. Frère Holland est né le 3 décembre 1940. Il est fils de Frank Day Holland et d'Alice Bentley. En 1963, il a épousé Patricia Terry. Et leurs enfants se nomment Matthew, Mary, Alice et David. Leurs brus et gendres se nomment Paige, Lee et Jeanne. Et ils ont 13 beaux petits-enfants. Frère Holland.
Merci beaucoup, Président. Mes chers jeunes amis, nous sommes très heureux, ma femme et moi, d'être avec vous ce soir pour cette diffusion mondiale par satellite. C'est toujours un plaisir d'être ici dans le Marriott Center. J'aurais aimé qu'il soit possible d'être avec vous à chaque endroit pour vous voir personnellement et vous serrer la main. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'y parvenir. Mais nous exprimons notre amour et nous envoyons nos salutations à tous, où que vous soyez dans le monde. Nous espérons que malgré la taille de notre assistance mondiale, vous pourrez ressentir l'amour que nous avons pour chacun de vous et retirer de notre message de ce soir quelque chose d'applicable à votre vie personnelle. L'une des grandes bénédictions qu'apportent nos tâches d'autorité générale est l'occasion de rendre visite aux membres de l'Église en divers endroits du monde et de glaner les expériences de nos membres partout sur la Terre. Dans cet esprit, je veux vous faire part ce soir de sentiments que j'ai eus au printemps dernier, alors que j'avais la tâche de me rendre à la conférence du pieu de Platte City, dans l'ouest du Missouri, ici, aux États-Unis. Dans le Missouri, le pieu de Platte City se trouve près du pieu de Liberty, lieu très connu dans l'histoire de l'Église, et où se trouvent plusieurs sites importants de l'histoire de l'Église, dont la prison appelée paradoxalement Liberty Jail. Ayant étudié l'histoire de l'Église, vous savez tous quelque chose de ce qui est arrivé à Joseph Smith, le prophète, et à ses compagnons, tandis qu'ils étaient dans cette prison durant l'hiver 1838-1839. C'était une période terriblement difficile de notre histoire, pour l'Église en général, et certainement pour le prophète Joseph, sur lequel s'acharnait toute la persécution à ce moment-là. En fait, je peux dire que jusqu'à son martyr, 5 ans et demi plus tard, il n'y a pas eu dans la vie de Joseph de période plus difficile que cette incarcération cruelle, illégale et injustifiée à la prison de Liberty. Le temps ne permet pas d'expliquer en détail ce qui a conduit à ce moment de l'histoire de l'Église, mais il suffit de dire que des problèmes de différentes sortes se sont accumulés depuis la révélation reçue par le prophète Joseph en juillet 1831, désignant le Missouri comme lieu consacré pour le rassemblement des saints et pour la construction de la ville de Sion. En octobre 1838, une guerre totale semble inévitable entre les forces mormones et non mormones s'affrontant pour ces questions. Après avoir été chassés de plusieurs comtés de l'ouest de cet État et en étant trompeusement invités à discuter de moyens de désamorcer la situation explosive qui s'était installée, 5 dirigeants de l'Église, dont le prophète Joseph, avançaient avec un drapeau blanc vers le camp de la milice du Missouri, près de la petite colline de Far West, dans le comté de Caldwell. Mais, comme on le sait, le drapeau blanc n'a pas été respecté, et les dirigeants de l'Église ont été immédiatement enchaînés et placés sous bonne garde. Le lendemain matin de cette arrestation, 2 autres dirigeants saints des derniers jours, dont le frère du prophète Hiram, ont été faits prisonniers, ce qui portait à 7 le nombre des captifs. L'injustice a rapidement tourné en tragédie potentielle quand le tribunal militaire, réuni par des officiers de la milice, a ordonné que Joseph Smith et les autres prisonniers soient emmenés sur la place publique de Far West pour être fusillés. Le brigadier général Alexander Doniphan, officier des forces du Missouri, a audacieusement et courageusement refusé d'exécuter cet ordre inhumain et injustifié, fait pour lequel on se le rappellera éternellement. Avec une audace qui aurait pu lui valoir la cour martiale, il s'est écrié face à l'officier commandant : « C'est un meurtre de sang-froid. Je n'obéirai pas à votre ordre. Et si vous exécutez ces hommes, je vous en tiendrai pour responsable devant un tribunal terrestre. Dieu m'en est témoin. » En faisant preuve de ce courage et de cette intégrité, Doniphan non seulement a sauvé la vie de ces 7 hommes, mais il s'est aussi acquis l'amour éternel des saints des derniers jours de toutes les générations. Leur exécution évitée, ces 7 dirigeants de l'Église ont été emmenés à pied de Far West à Indépendance, puis d'Indépendance à Richmond. Parley P. Pratt a été incarcéré dans le comté voisin Davis pour être jugé, et les 6 autres prisonniers, dont Joseph et Hiram, ont été envoyés à Liberty, siège du comté voisin Clay, pour y attendre leur jugement prévu le printemps suivant. Ils sont arrivés à Liberté le 1er décembre 1838, juste au début de l'hiver. La prison, l'une des rares et certainement l'une des plus sinistres de cette région, était considérée comme un endroit dont il était impossible de s'échapper. Il y avait 2 niveaux. Le haut, ou niveau principal, n'est accessible de l'extérieur que par une seule porte, petite et lourde. Au milieu de ce niveau, il y avait une trappe par laquelle on descendait les prisonniers au niveau inférieur ou cachot. Les murs extérieurs de la prison étaient en pierre brute de 60 cm d'épaisseur. Ils étaient doublés à l'intérieur d'un mur de rondins de chêne de 30 cm d'épaisseur. Ces 2 parois séparées par un espace de 30 cm rempli de pierre. Cet ensemble formait un mur épais, pratiquement impénétrable, d'1,20 m d'épaisseur. Dans le cachot, la hauteur du sol au plafond était d'à peine 1m20. Et comme certains des hommes dont le prophète Joseph mesurait plus d'1m80, cela signifie que lorsqu'ils étaient debout, ils étaient constamment courbés. Et quand ils s'allongeaient, c'était sur un sol de pierre nu, couvert ça et là d'un peu de paille sale, avec quelques matelas de paille sale. La nourriture donnée aux prisonniers était mauvaise et parfois contaminée, si dégoûtante que l'un d'eux a dit qu'il ne pouvait la manger que lorsqu'ils étaient affamés. À 4 reprises, leur nourriture a été intentionnellement empoisonnée, les rendant si malades que pendant des jours, ils passaient des vomissements à un genre de délire. On se souciait peu qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Dans ses lettres, le prophète Joseph dit de la prison, « C'est un enfer peuplé de démons où nous sommes obligés de n'entendre que des jurons et des blasphèmes. Nous avons été témoins d'une scène de blasphème, d'ivrognerie, d'hypocrisie et de débauche sans nom. Nous n'avons pas de couverture. Et quand nous avons un feu, nous suffoquons dans la fumée. Notre âme est écrasée et nous avons des tremblements dus à ce long confinement. » Joseph écrit, « La plume, les mots ou les anges n'arriveraient pas à décrire l'enfer que nous avons subi. » Et tout cela durant ce que plusieurs récits ont décrit comme l'hiver le plus froid dont est gardée trace écrite dans l'État du Missouri. Mon but n'est pas de faire un discours sur la peine et les difficultés de ces hommes dans la prison de Liberty. Voyons donc quelques photos sur l'écran. Et j'ai bien peur que beaucoup d'entre vous ne pourront pas tout voir. Et je vais conclure ensuite mon message. Je vous promets que j'ai prévu de parler d'autre chose. Voici une photo de la prison, à peu près comme elle était au moment où Joseph et ses compagnons ont été incarcérés. Voici une photo prise quelques années après, quand des dirigeants et des historiens de l'Église se sont rendus sur le lieu. Je ne sais pas si l'homme au-dessus essaye de s'échapper. Voici une coupe de la reconstruction par l'Église de la prison que l'on peut voir maintenant dans notre centre d'accueil des visiteurs. Remarquez les 2 niveaux avec une corde et un seau, le seul lien entre le cachot et le niveau supérieur. Voici un tableau de Liz Lemon Swindle montrant Joseph en prière. Remarquez le visage désespéré et suppliant de Joseph. Et voici un tableau de Greg Olson montrant comment Joseph a pu écrire certaines des révélations qu'il a reçues durant cet emprisonnement. Et voici ma dernière photo qui m'amène au véritable message que je suis venu donner ce soir. La plupart d'entre nous parlons la plupart du temps du bâtiment de Liberty comme d'une prison. Et ce l'était certainement. Mais Brigham H. Roberts, dans l'histoire de l'Église, parle de ce bâtiment comme d'un temple, ou plus exactement d'une prison-temple. Neil A. Maxwell a utilisé la même expression dans certains de ses écrits. Il est certain qu'il n'y avait pas la pureté, la beauté, le confort et la propreté de nos véritables temples, de nos temples consacrés. Le langage et la conduite des gardes et des criminels qui y sont allés n'avaient rien de semblable au temple. En fait, le confinement, la brutalité et l'injustice de l'emprisonnement à Liberty en feraient l'antithèse de l'esprit libérateur, miséricordieux de nos temples et des ordonnances qui y sont accomplies. Alors, dans quel sens la prison de Liberty pourrait-elle être qualifiée de temple, ou au moins de sorte de temple, dans le développement de la personnalité de Joseph et de son rôle de prophète? Qu'est-ce que ce qualificatif nous apprend sur l'amour et les enseignements de Dieu, notamment sur le lieu et le moment où cet amour et ces enseignements se sont manifestés? En réfléchissant à cela, sommes-nous frappés par le fait que chacun de nous peut avoir une expérience spirituelle ou sacrée ou une révélation à n'importe quel moment Et dans n'importe quelle situation, si nous le voulons, si nous persévérons et prions, si nous gardons la foi dans nos difficultés, nous aimons et chérissons nos temples consacrés et les ordonnances essentielles pour l'exaltation qui y sont accomplies. Nous remercions les cieux et nos frères de la présidence pour le nombre croissant de temples permettant à de plus en plus d'entre nous d'y aller. Ce sont véritablement les bâtiments les plus saints et les plus sacrés du royaume de Dieu dans lesquels nous devons aller aussi dignement et aussi souvent que possible. Mais mon message de ce soir est que lorsque c'est nécessaire, vous pouvez avoir une expérience sacrée, une révélation, un enseignement profond du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Laissez-moi vous le dire de manière plus forte. Vous pouvez avoir une expérience sacrée, une révélation, un enseignement profond du Seigneur dans les pires circonstances, dans les pires situations, lors d'injustices les plus douloureuses, face aux difficultés et à l'opposition les plus insurmontables que vous ayez jamais rencontrées. Parlons un peu de ces situations. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, grave ou minime, lors d'un drame ou d'un accident, allons passer un peu de temps dans la prison de liberté, spirituellement parlant. Nous allons affronter des choses que nous ne pouvons pas affronter, que ce soit notre faute ou pas. En fait, nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles pour des raisons tout à fait justes et bonnes, parce que nous essayons de garder les commandements du Seigneur. Nous pouvons être persécutés. Nous pouvons souffrir et être séparés d'êtres chers. Nous pouvons avoir faim et froid et être désespérés. Oui, avant la fin de notre vie, nous pouvons tous ressentir un peu ce que les prophètes ont affronté durant la leur. Mais les leçons de l'hiver 1838-1839 nous enseignent que n'importe quelle situation peut nous apporter la rédemption si nous restons liés à notre Père céleste face aux difficultés qu'elle présente. Ces leçons difficiles nous enseignent que l'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. Et si nous sommes humbles et fidèles, si nous croyons et ne maudissons pas Dieu, il peut transformer les prisons injustes, inhumaines et dégradantes de notre vie en temple, ou au moins en situations qui peuvent nous apporter la consolation, la révélation, la compagnie divine et la paix. Allons un peu plus loin. Je viens de dire que des temps difficiles peuvent nous arriver. Joseph Fielding Smith, petit-neveu du prophète Joseph et petit-fils du prisonnier Hiram, a dit quelque chose d'encore plus fort quand il a consacré le centre d'accueil des visiteurs de la prison de Liberty en 1963. Faisant allusion à ce que nous avons vu ce soir, et voyant l'endroit où son grand-père et son grand-oncle avaient été si injustement détenus, il a dit que peut-être ce genre de choses devait se produire. Elles peuvent se passer, mais peut-être peuvent-elles se passer. Il a dit, en lisant ce qui s'est passé à ce moment-là, les jours qui ont précédé et les jours qui ont suivi, j'en suis arrivé à la conclusion que les difficultés, la persécution et l'opposition presque universelle envers l'Église à cette époque étaient nécessaires. De toute façon, elles ont été des enseignements pour notre peuple. Elles les ont rendus forts. Sans essayer de déterminer lesquelles de ces situations sont obligatoires et lesquelles sont facultatives, mais quand même, pour notre bien, je ne vais parler que de quelques-unes des nombreuses leçons apprises à Liberty. Ces expériences qui ont instruit Joseph et qui peuvent nous instruire. Des expériences qui contribuent énormément à notre éducation dans la condition mortelle et à notre exaltation dans l'éternité. En sélectionnant ces leçons, j'ai remarqué une autre sorte de bénédiction qui découle de cette adversité. Pour expliquer ce que j'essaie de mettre dans mon message de ce soir, j'ai tiré les mots exacts de la révélation prononcée par Joseph Smith durant cette période déchirante. Des paroles que nous avons maintenant canonisées comme saintes écritures dans les doctrines et alliances. J'imagine que nous ne devons pas avoir d'écriture préférée, et j'en ai suffisamment pour que vous ne puissiez pas m'accuser d'en avoir une ou deux. Mais il est certain que n'importe quelle liste de mes écritures préférées contiendrait celle écrite dans les ténèbres de la prison de liberté. Donc, ce que nous apprenons tout de suite est que Dieu n'instruisait pas seulement Joseph Smith dans cette prison, mais qu'il nous instruisait tous et les générations encore à venir. Quel cadeau scripturaire! Quel prix élevé a été payé pour les avoir! Mais comme notre vie de saint des derniers jours serait vide si nous n'avions pas les sections 121, 122 et 123 des doctrines et alliances. Si vous ne les avez pas lues récemment, je veux que vous les lisiez ce soir ou demain, mais pas plus tard. C'est le devoir que je vous donne à faire, et je vais vérifier. Elles tiennent sur un total de seulement 6 pages de texte, mais vous allez être touchés par la beauté et la puissance de ces 6 pages. Elles vont vous rappeler que Dieu a souvent des voies mystérieuses pour accomplir ses merveilles. En tout cas, il a certainement transformé l'adversité en bénédiction en nous donnant ses écrits et ses réflexions sacrées, si purs, nobles et chrétiens, par leur tonalité et leur contenu, et pourtant produits dans un cadre impur, ignoble et sans aucun sens chrétien. Donc, voici 3 leçons de la prison de liberté. La première de ces leçons est inhérente à ce que j'ai déjà dit, c'est que tout le monde, y compris et peut-être particulièrement les justes, auront à affronter des temps d'épreuve. Mais quand cela se produit, nous pouvons parfois craindre que Dieu nous a abandonnés. Il se peut que nous soyons laissés, au moins pour un temps, à nous demander si nos difficultés vont jamais se terminer. Individuellement, en tant que famille, collectivité ou nation, il est probable que tout le monde a eu ou aura l'occasion de ressentir ce que Joseph Smith a ressenti quand il a demandé pourquoi il fallait qu'il ait tant de chagrin et combien de temps dureront les ténèbres et la douleur. Nous identifions à lui quand il s'écrie découragé du fond de sa prison, « Ô Dieu, où es-tu ? Combien de temps retiendras-tu ta main ? Oui, ô Seigneur, combien de temps tes saints souffriront-ils avant que tes entrailles ne soient émues de compassion envers eux ? » C'est un cri du cœur douloureux, une solitude spirituelle que nous pouvons tous avoir l'occasion de ressentir à un certain moment de notre vie. Vous avez déjà peut-être eu de tels moments dans votre jeune vie. Si c'est le cas, j'espère que vous n'en avez pas eu beaucoup. Mais lorsque ces moments extrêmes surviennent, nous ne devons pas succomber à la crainte que Dieu nous ait abandonnés ou qu'il n'entend pas nos prières. Il nous entend. Il nous voit. Il nous aime. Quand nous sommes dans ces terribles situations où nous voulons crier « Où es-tu ?», il est impératif que nous nous rappelions qu'il est près de nous, où il a toujours été. Nous devons continuer de croire, continuer d'avoir foi, continuer de prier et de supplier les cieux, même si nous avons pendant un moment le sentiment que nos prières ne sont pas entendues et que Dieu s'est éloigné. Il est là. Nos prières sont entendues. et quand nous pleurons, ses anges et lui pleurent avec nous. Quand nous nous sentons seuls, que nous avons des difficultés, nous devons persévérer, persister. C'était le message du Sauveur dans la parabole de la veuve importune. Continuez de frapper à la porte. Continuez de supplier. Pendant ce temps, sachez que Dieu entend vos pleurs et connaît votre détresse. Il est votre Père et vous êtes son enfant spirituel. Quand ce qui doit se produire s'est produit, et quand les leçons qui doivent être apprises ont été apprises, il en sera pour nous de même que pour le prophète Joseph Smith. Le moment où il se sentait le plus seul et le plus éloigné des cieux a été le moment précis où il a reçu l'aide merveilleuse de l'Esprit et les réponses merveilleuses et glorieuses qui venaient de son Père céleste. Dans ce cachot lugubre et dans ce moment de désespoir, la voix de Dieu lui est parvenue disant, « Mon Fils, que la paix soit en ton âme, ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. » Bien que nous puissions être accablés par des situations apparemment injustes, que des choses désagréables et imméritées puissent nous être faites, peut-être par des gens que nous considérons comme des ennemis, mais aussi dans certains cas par des gens que nous pensions être des amis, néanmoins, à ces moments, Dieu est avec nous. C'est pour cela que notre chœur magnifique nous a interprété ce soir le cantique chrétien traditionnel de Sarah Adams. Le quatrième couplet, rarement chanté, nous dit « Au plus profond des bois, dans le désert, j'ai vu, tout près de toi, ton ciel ouvert. » Nous ne sommes pas seuls dans nos petites maisons, dans nos petites prisons ici. Quand nous souffrons, nous pouvons en fait être plus proches de Dieu que nous ne l'avons jamais été. Cette connaissance peut transformer des situations de ce genre en expériences du temple. Concernant notre séjour sur terre, le Seigneur a promis « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. » C'est une déclaration éternelle de l'amour et de la sollicitude de Dieu pour vous, y compris, ou peut-être en particulier, dans les périodes de difficulté. Deuxièmement, nous devons nous rendre compte que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, parfois injustes, et qui nous semblent injustifiées, que cela signifie que nous ne sommes pas bons, que nous ne sommes pas dignes de bénédiction et que nous avons déçu Dieu. Bien sûr, le péché produit la souffrance, et la seule réponse à cette conduite est le repentir. Mais il arrive, quelquefois, que les justes souffrent aussi. Vous vous souvenez que des profondeurs de la prison de Liberty, quand il a été rappelé à Joseph qu'il avait effectivement été plongé dans les ennuis, appelé à traverser les tribulations, accusé faussement, arraché à sa famille et jeté dans une fosse entre les mains d'assassins, mais qu'il ne devait pas oublier que la même chose était arrivée au Sauveur du monde. Et que, parce qu'il avait triomphé, nous triompherons aussi. En nous faisant ce court rappel de ce que le Sauveur a subi, la révélation dans la prison de Liberty dit « Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. » Cela veut dire en dessous, plus sinistre que tout ce que Joseph et ses compagnons enduraient.
Non. Joseph was not greater than the Savior, and neither are we.
Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Joseph Smith n'était pas plus grand que le Sauveur, et nous ne le sommes pas non plus. Et quand nous promettons de suivre le Seigneur, de suivre ses pas et d'être ses disciples, nous promettons d'aller où nous mène ce chemin divin. Et le chemin de salut, du salut, passe toujours d'une manière ou d'une autre par Gethsémané. Donc, si le Sauveur a rencontré de telles injustices, de tels découragements, de telles persécutions et de telles souffrances, nous ne pouvons pas nous attendre à ne rencontrer un peu de cela si nous voulons qu'on nous appelle ses disciples véritables et fidèles. Et cela souligne certainement le fait que les justes, et dans le cas du Sauveur, la personnification de la justice, peuvent être totalement dignes devant Dieu et souffrir quand même. Effectivement, le fait que Jésus, au cours de l'expiation, a connu tout le déchirement, tout le chagrin, toutes les déceptions et toutes les injustices de toute la famille humaine, d'Adam à Ève, à la fin du monde, afin que nous n'ayons pas à les connaître aussi cruellement. Toutefois, aussi lourd que puisse être notre fardeau, il serait beaucoup plus lourd si le Sauveur n'avait pas suivi ce chemin avant nous et porté ce fardeau avec nous et pour nous. Au cours du ministère du prophète Joseph, le Sauveur lui a enseigné cela très tôt. Après avoir parlé de souffrances extrêmes et dures à supporter, Jésus a dit, « Moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils, vous, moi, tout le monde, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. » Dans nos moments de souffrance et d'épreuve, j'imagine que nous frémissons à l'idée que cela pourrait être pire. Mais la réponse est clairement que cela pourrait être pire et serait pire, mais que par notre foi, notre repentir et notre obéissance à l'Évangile qui a fourni l'expiation sacrée, cela ne sera pas pire. De plus, nous voyons que non seulement le Sauveur a souffert alors qu'il était entièrement innocent, mais aussi la plupart des prophètes et les autres grands hommes et femmes dont il est parlé dans les Écritures. Citer un prophète de l'Ancien Testament ou du Livre de Mormon, citer un apôtre du Nouveau Testament, citer pratiquement n'importe quel dirigeant de n'importe quelle dispensation, y compris la nôtre, et vous citez quelqu'un qui a eu des difficultés. Ce que je veux dire, si vous passez une mauvaise journée, il y a beaucoup de gens comme vous, des gens très bien. Je veux dire les meilleurs qui aient jamais vécu. Ne me méprenez pas. Vous n'avez pas à rechercher les difficultés. Nous n'avons pas à chercher à être des martyrs. Les difficultés savent nous trouver sans que nous ayons à les chercher. Mais quand il s'avère qu'un peu de temps dans la prison de liberté vous attend, spirituellement parlant, souvenez-vous de ces deux premières vérités enseignées à Joseph dans cette prison-temple. Premièrement, Dieu ne vous a pas oublié. Et deuxièmement, le Sauveur a subi ce que vous subissez, ce qui lui permet de vous apporter la délivrance. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe, le Seigneur vous a gravé sur la paume de ses mains, de façon définitive dans sa chair, à l'aide des clous romains. Ayant payé le prix de souffrance qu'ils ont payé pour vous, le Père et le Fils ne vous oublieront pas et ne vous abandonneront jamais à vos souffrances. Ils ont planifié, préparé et garanti votre victoire si vous la désirez. Alors, croyez et persévérez. À la fin, toutes ces choses seront pour votre bien, et vous verrez une domination éternelle affluer vers vous pour toujours et à jamais, sans moyen de contrainte. Troisièmement, et pour terminer ce soir, je rappelle que, au milieu de ces difficultés où l'on pourrait, à juste titre, être en colère, réagir ou se venger en voulant rendre œil pour œil et dent pour dent, le Seigneur nous rappelle depuis la prison temple des libertés que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel et que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que ou sauf selon les principes de la justice. Par conséquent, même quand nous rencontrons des situations désespérantes et qu'il y a en nous quelque chose qui veut s'en prendre à Dieu ou à l'homme, ami ou ennemi, nous devons nous rappeler qu'aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, sans hypocrisie et sans fausseté. Pour moi, cela a toujours été un merveilleux témoignage de la grandeur du prophète Joseph et de tous nos prophètes, y compris et en particulier du Sauveur du monde dans ses magnifiques perfections, qu'au milieu d'une telle souffrance et de telles difficultés, ils aient pu rester calmes, patients, charitables et miséricordieux, qu'ils aient pu parler et vivre comme ils l'ont fait. Mais ils ont pu et ils l'ont fait. Ils se sont souvenus de leurs alliances, ils se sont maîtrisés, ils savaient que nous devons vivre l'Évangile en tout temps, pas seulement quand c'est commode, ni quand les choses se passent bien. En fait, la véritable mise à l'épreuve de notre foi et de notre qualité de disciple du Christ, c'est quand les choses ne se passent pas bien. C'est alors que nous voyons de quoi nous sommes faits et combien nous sommes réellement engagés vis-à-vis de l'Évangile. L'exemple classique est que dans les heures les plus douloureuses de la crucifixion, le Sauveur ait pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est quelque chose de difficile quand on souffre. C'est dur à faire quand on a été offensé ou qu'on est fatigué ou surmené, qu'on souffre alors qu'on est innocent. Mais c'est alors qu'il est le plus important d'avoir une conduite chrétienne. Rappelez-vous, les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Et avons-nous besoin des pouvoirs du ciel en de tels moments? Comme Joseph l'a enseigné dans cette prison-temple, même dans le désespoir et le chagrin, nous devons avoir les entrailles remplies de charité envers tous les hommes. Alors, notre assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Le seul moyen d'avoir l'aide divine est de rester fidèle à nos principes chrétiens. L'Esprit a une tâche presque impossible s'il doit entrer dans un cœur rempli de haine, de colère, de vengeance ou d'apitoiement sur soi. Tout cela est l'antithèse de l'Esprit. Par contre, l'Esprit peut accéder instantanément à un cœur qui s'efforce d'être charitable, de pardonner, qui est patient et gentil. Ce sont les principes des vrais disciples. Avec le témoignage que les principes de l'Évangile doivent être appliqués en tout temps et dans toutes les situations, et en nous efforçant de rester fidèles, le triomphe d'une vie chrétienne ne pourra jamais être vaincu, quelle que soit la difficulté de la situation. Comme j'aime la majesté de ces beaux enseignements célestes, donnés paradoxalement dans un endroit et à une période aussi méprisable. Pour conclure les leçons de la prison de liberté, Je me reporte au dernier verset de la dernière des trois sections auxquelles nous nous sommes reportés ce soir. Dans sa dernière déclaration canonisée sur l'expérience de la prison de Liberty, le Seigneur nous dit, par l'intermédiaire de son prophète Joseph Smith, « C'est pourquoi, frères et sœurs, tendrement aimés, même dans les périodes les plus difficiles, faisons de bon gré tout ce qui est en notre pouvoir. Alors, nous pourrons nous tenir là avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. » Quelle déclaration d'optimisme et de fidélité pour conclure l'expérience de la prison-temple. Quand il a écrit ces lignes, Joseph ne savait pas quand il serait libéré, ni s'il serait jamais libéré. Il était tout à fait possible que ses ennemis projettent toujours de lui ôter la vie. De plus, sa femme et ses enfants étaient seuls, effrayés, souvent affamés, se demandant s'ils pourraient se débrouiller seuls sans leur mari et leur père. Les saints, eux aussi, étaient sans maison et sans prophète. Ils étaient en train de quitter le Missouri pour l'Illinois, mais qui savait quelle tragédie les y attendait? C'était certainement, je le redis, la période la plus difficile et la plus sombre. Pourtant, en ces heures froides et solitaires, Joseph dit, faisons tout notre possible et faisons-le de bon gré. Alors nous pourrons de bon droit nous adresser au Seigneur, compter sur sa miséricorde et voir son bras se révéler en notre faveur. Quelle attitude magnifique, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans le chagrin comme dans la joie. Mes chers jeunes amis, je témoigne que le Père, j'aimerais vous donner une bénédiction. En tant que témoin apostolique, nous avons deux occasions et obligations. L'une d'elles est d'être témoin comme je l'ai fait ce soir. Et l'autre est de vous bénir, comme les anciens apôtres, quand le Seigneur les invitait à faire comme lui. Alors, à vous tous qui êtes ici, dans ce lieu et ailleurs, dans les centres de pieux, dans le monde entier, je bénis chacun d'entre vous dans vos circonstances individuelles, comme si mes mains étaient sur votre tête. Et je dis ceci avec autant de sincérité que je donne mon témoignage. Je vous bénis au nom du Seigneur. Dieu vous écoute, Dieu vous aime. Il est à votre côté. Je bénis les frères en particulier, que vous soyez dignes de la prêtrise que vous avez et la vie que nous avons été appelés à mener d'après l'ordre du Fils de Dieu. Je prie que vous soyez comme le Maître, que vous pensiez comme il pensait, que vous parliez comme il a parlé et qu'il a fait et qu'il a agi comme lui. Je vous bénis, frère, afin que vous ayez les bénédictions de la prêtrise. Beaucoup de ces bénédictions que nous avons citées ce soir dans la section des doctrines alliances que j'ai mentionnées. Je bénis tous ceux qui m'écoutent afin que vous sachiez combien Dieu vous chérit, afin que vous sachiez que le drapeau de la foi a été brandi par les sœurs également de l'Église. Souvent, ce sont les femmes dans notre vie, nos grands-mères, nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos petites filles, qui ont brandi cette bannière de la foi et qui ont porté les principes de l'Évangile là où c'était nécessaire. Là où nous avions, pendant les périodes difficiles. Sœurs, nous vous aimons beaucoup et nous vous bénissons. Et nous prions que les désirs de votre cœur soient exaucés et que vous quittiez cette assemblée avec la compréhension et la connaissance que Dieu vous aime. Je vous salue, les jeunes adultes de cette Église, au cours de cette grande assemblée. Et je dis que l'avenir de l'Église est entre vos mains. Car bientôt, ceux de ma génération passeront le bâton à nos successeurs pour faire face à ces moments avec intégrité. Je témoigne et je scelle cette bénédiction sur votre tête et je témoigne que le Père et le Fils vivent et qu'ils sont près de nous, en particulier lorsque nous traversons des périodes difficiles. Je témoigne, et alors que nous verrons notre hymne de conclusion, la gentillesse et la bonté de Dieu ne vous quittera jamais, quoi qu'il arrive. Je témoigne que les mauvais jours ont une fin, que la foi triomphe toujours. Et que les promesses divines sont toujours tenues. Je témoigne que Dieu est notre Père, et que Jésus est le Christ. C'est ici l'Évangile vrai et vivant, se trouvant dans l'Église vraie et vivante. Je témoigne que le président Manson est un prophète de Dieu, notre prophète à cette époque. Je l'aime et je le soutiens, comme vous. Rappelez-vous les paroles de Dieu dans la prison de liberté. Maintiens-toi donc sur ta route. Ne crains pas. Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.